Chapitre 11e. Coup d'œil sur les peuples tartares. Les Tartares, descendants des anciens Scythes, ont conservé jusqu'à ce jour l'habileté de leurs ancêtres pour tirer de l'arc et monter à cheval. Les commencements de leur histoire sont mêlés d'incertitudes. Ils ont entouré de merveilles et de prodiges les exploits de leur premier conquérant, Ocus Han, qui paraît être le Madiès d'Hérodote. Ce fameux chef des hordes Scythes porta ses armes jusqu'en Syrie et approcha même des confins de l'Égypte. Les annales chinoises parlent beaucoup de certaines hordes nomades qu'elles nomment Yung-Nu et qui ne sont autre chose que les Huns. Ces tribus errantes et guerrières s'étendirent peu à peu et finirent par couvrir les vastes déserts de la Tartarie d'Orient en Occident. Dès lors, elles ne cessèrent de harceler leurs voisins et plusieurs fois elles firent des incursions sur les frontières de l'Empire. Ce fut à cette occasion que Qin Shi Huangti fit construire la Grande Muraille, l'an 213 de l'ère chrétienne. Environ 134 ans avant Jésus-Christ, les Huns, sous la conduite de Lao Chan, leur empereur, se ruèrent contre les Tartares Yue Chi, les Jettes, qui habitaient sur les confins de la province du Shanxi. Après de longs et affreux combats, Lao Chan les défit, tua leur chef et fit de sa tête un vase à boire qu'il porta suspendu à sa ceinture. La nation des Jettes ne voulut pas se soumettre aux vainqueurs et préféra aller chercher ailleurs une autre patrie. Elle se divisa en deux grandes bandes, l'une monta vers le nord-ouest et alla s'emparer des plaines situées sur les bords du fleuve Illy par-delà les glaciers du mont Moussour. C'est cette partie de la Tartarie qu'on nomme aujourd'hui le Torgod. L'autre bande descendit vers le midi, entraîna dans sa fuite plusieurs autres tribus et parma jusque dans les contrées arrosées par l'Indus. Là, elle dévasta le royaume fondé par les successeurs d'Alexandre, lutta longtemps contre les Parthes et finit par s'établir dans la Bactriane. Les Grecs nommèrent ces tribus Tartares Indocites. Cependant, la division se mit parmi les Huns et les Chinois, toujours politiques et rusés, en profitèrent pour les affaiblir. Vers l'an 48 de notre ère, l'Empire tartare se divisa en septentrional et méridional. Sous la dynastie des Han, les Huns septentrionaux furent complètement défaits par les armées chinoises. Ils furent contraints d'abandonner les contrées dans lesquelles ils s'étaient établis et se portèrent par grandes troupes vers l'Occident, jusque sur les bords de la mer Caspienne. Ils se répandirent dans les pays arrosés par le fleuve Volga et aux environs des Palus Méotides. Ils commencèrent en 376 leurs épouvantables excursions dans l'Empire romain. Ils débutèrent par envahir le pays des Alains, peuple pasteur et nomade comme eux. Ceux-ci se réfugièrent en partie dans les montagnes de la Circassie, d'autres se portèrent plus à l'ouest et s'établirent enfin sur le Danube. Plus tard, ils poussèrent devant eux les Suèves, les Goths, les Gépides et les Vandales et vinrent tous ensemble ravager la Germanie au commencement du 5e siècle. Ces grandes hordes de barbares, semblables à des flots poussés les uns par les autres, formèrent ainsi, dans leur course dévastatrice, un affreux torrent qui finit par inonder l'Europe. Les Huns méridionaux, qui étaient demeurés en Tartarie, furent longtemps affaiblis par la dispersion des septentrionaux, mais ils se relevèrent insensiblement et devinrent de nouveau redoutables aux Chinois. Ils n'acquirent une véritable importance politique et historique que sous le fameux Genghis Khan vers la fin du XIIe siècle. La puissance des Tartares, longtemps comprimée dans les steppes de la Mongolie, rompit enfin ses digues et l'on vit des armées innombrables descendues des hauts plateaux de l'Asie centrale se précipiter avec fureur sur les nations épouvantées. Genghis Khan porta la destruction et la mort jusqu'aux contrées les plus reculées. La Chine, la Tartarie, l'Inde, la Perse, la Syrie, la Moscovie, la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, toutes ces nations ressentirent tour à tour les coups terribles du conquérant tartare. La France, l'Italie et les autres pays plus reculés vers l'Occident en furent quittes pour la peur. En l'an 1260 de notre ère, le Khan Kubilai, petit-fils de Tchingis, qui avait commencé la conquête de la Chine, acheva de soumettre ce vaste empire. Ce fut la première fois qu'il passa sous le joug des étrangers. Kubilai mourut à Pékin en l'an 1294, à l'âge de 80 ans. Son empire fut, sans contredit, le plus vaste qui ait jamais existé. Les géographes chinois disent que sous la dynastie mongole des Yuan, l'empire dépassa au nord les monts Inchan. À l'ouest, il s'étendit au-delà des gobies ou déserts sablonneux. À l'est, il se termina au pays situé à gauche du fleuve Siao, et au sud, il atteignit les bords de la mer Yue. On sent que cette description ne comprend nullement les pays tributaires de l'empire. Le Tibet, le Turkestan, la Moscovie, Siam, la Cochinchine, le Tonkin et la Corée reconnaissaient la suzeraineté du grand Khan des Tartares et lui payaient fidèlement le tribut. Les nations européennes furent même, à plusieurs reprises, insolemment sommées de reconnaître la domination mongole. Des lettres orgueilleuses et menaçantes furent envoyées au pape, au roi de France, à l'empereur, pour leur enjoindre d'apporter en tribut les revenus de leurs états jusqu'au fond de la Tartarie. Les princes issus de la famille de Tchingis Khan, qui régnaient en Moscovie, en Perse, dans la Bactriane et dans la Sogdiane, recevaient l'investiture de l'empereur de Pékin et n'entreprenaient rien d'important sans lui en avoir donné avis par avance. Les pièces diplomatiques que le roi de Perse envoyait au XIIIe siècle à Philippe le Bel sont une preuve de cette subordination. Sur ces monuments précieux, qui se sont conservés jusqu'à nos jours aux archives de France, on voit des sceaux en caractère chinois et qui constatent la suprématie du grand Khan de Pékin sur les souverains de la Perse. Les conquêtes de Tchingis Khan et de ses successeurs, plus tard celles de Tamerlan ou Timur, qui transporta le siège de l'Empire mongol à Samarcande, contribuèrent autant et peut-être plus que les croisades à renouer les relations de l'Europe avec les États les plus reculés de l'Orient et favorisèrent les découvertes qui ont été si utiles au progrès des arts, des sciences et de la navigation. À ce sujet, nous citerons ici un passage plein d'intérêt, extrait des mémoires que M. Abel Rémusat fit paraître en 1824 sur les relations politiques des princes chrétiens et particulièrement des rois de France avec les empereurs mongols. Les lieutenants de Tchingis Khan et de ses premiers successeurs, en arrivant dans l'Asie occidentale, ne cherchèrent d'abord à y contracter aucune alliance. Les princes dans les états desquels ils entraient se laissèrent imposer un tribut. Les autres reçurent ordre de se soumettre. Les Géorgiens et les Arméniens furent du nombre des premiers. Les Francs de Syrie, les rois de Hongrie, l'empereur lui-même, eurent à repousser d'insolentes sommations. Le pape n'en fut pas garanti par la suprématie qu'on lui reconnaissait à l'égard des autres souverains chrétiens, ni le roi de France, par la haute renommée dont il jouissait dans tout l'Orient. La terreur qu'inspiraient les Tartares ne permit pas de faire à leur provocation la réponse qu'elles méritaient. On essaya de les fléchir, on brigua leur alliance, on s'efforça de les exciter contre les musulmans. On eût difficilement pu y réussir si les chrétiens orientaux, qui, en se faisant leurs vassaux, avaient obtenu du crédit à la cour de leurs généraux et de leurs princes, ne s'y fussent employés avec ardeur. Les Mongols se laissèrent engager à faire la guerre au sultan d'Égypte. Tel fut l'état des rapports qu'on eut avec eux pendant la première période, qui a duré depuis 1224 jusqu'en 1262. Dans la seconde période, le califat fut détruit. Une principauté mongole se trouva fondée dans la Perse. Elle confinait aux états du sultan d'Égypte. Une rivalité sanglante s'éleva entre les deux pays. Les chrétiens orientaux s'attachèrent à l'aigrir. L'empire des Mongols était divisé. Ceux de Perse eurent besoin d'auxiliaires. Leurs vassaux d'Arménie leur en procurèrent. Ces auxiliaires furent les Francs. Leur puissance déclinait alors de plus en plus. Elle ne tarda pas à être détruite. De nouvelles croisades pouvaient la relever. Les Mongols sollicitèrent en Occident. Ils joignirent leurs exhortations à celles des Géorgiens, des Arméniens, des débris des croisés réfugiés en Chypre et à celles des souverains pontifes. Les premiers Tartares avaient débuté par des menaces et des injures. Les derniers en vinrent aux offres et descendirent jusqu'aux prières. 20 ambassadeurs furent envoyés par eux en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre, mais il ne tint pas à eux que le feu des guerres saintes ne se ralluma et ne s'étendit encore sur l'Europe et sur l'Asie. Ces tentatives diplomatiques, dont le récit forme, pour ainsi dire, un épilogue des expéditions d'outre-mer, à peine aperçues par ceux qui en ont tracé l'histoire, ignorées même de la plupart d'entre eux, méritaient peut-être de fixer notre attention. Il fallait rassembler les faits, résoudre les difficultés, mettre en lumière le système politique auquel se lient les négociations avec les Tartares. Les particularités de ce genre ne pouvaient être appréciées tant qu'on les considérait isolément et sans les examiner dans leur ensemble. On pouvait mettre en doute, comme Voltaire et De Guignes, qu'un roi des Tartares eût prévenu Saint-Louis par des offres de service. Ce fait ne paraissait tenir à rien, et le récit en devait sembler paradoxal. Le même scepticisme serait déraisonnable quand on voit que les Mongols n'ont fait autre chose pendant 50 années, et quand on est assuré, par la lecture des écrits des contemporains et par l'inspection des monuments originaux, que cette conduite était naturelle de leur part, qu'elle entrait dans leur vue, qu'elle était conforme à leurs intérêts, et qu'elle s'explique enfin par les règles communes de la raison et de la politique. La série des événements qui se rattachent à ces négociations sert à compléter l'histoire des croisades, mais la part qu'elles ont pu avoir dans la grande révolution morale qui ne tarda pas à s'opérer, les rapports qu'elles firent naître entre des peuples jusqu'alors inconnus les uns aux autres, sont des faits d'une importance plus générale et plus digne encore de fixer notre attention. Deux systèmes de civilisation s'étaient établis, étendus, perfectionnés, aux deux extrémités de l'ancien continent par l'effet de causes indépendantes, sans communication, par conséquent sans influence mutuelle. Tout à coup, les événements de la guerre et les combinaisons de la politique mettent en contact ces deux grands corps, si longtemps étrangers l'un à l'autre. Les entrevues solennelles des ambassadeurs ne sont pas les seules occasions où il y eut entre eux des rapprochements. D'autres, plus obscurs, mais encore plus efficaces, s'établirent par des ramifications inaperçues mais innombrables, par les voyages d'une foule de particuliers entraînés aux deux bouts du monde, dans des vues commerciales, à la suite des envoyés ou des armées. L'irruption des Mongols, en bouleversant tout, franchit toutes les distances, combla tous les intervalles et rapprocha tous les peuples. Les événements de la guerre transportèrent des milliers d'individus à d'immenses distances des lieux où ils étaient nés. L'histoire a conservé le souvenir des voyages des rois, des ambassadeurs, de quelques missionnaires. Sempad l'Orbélien, Aéton, roi d'Arménie, les deux David, roi de Géorgie, et plusieurs autres, furent conduits par des motifs politiques dans le fond de l'Asie. Yaroslav, grand-duc de Souzdal et vassal des Mongols, comme les autres princes russes, vint à Karakorum, où il mourut empoisonné, dit-on, par la main même de l'impératrice, mère de l'empereur Gayouk. Beaucoup de religieux italiens, français, flamands, furent chargés de missions diplomatiques auprès du grand Khan. Des Mongols de distinction vinrent à Rome, à Barcelone, à Valence, à Lyon, à Paris, à Londres, à Northampton, et un franciscain du royaume de Naples fut archevêque de Pékin. Son successeur fut un professeur de théologie de la faculté de Paris. Mais combien d'autres personnages moins connus furent entraînés à la suite de ceux-là, ou comme esclaves, ou attirés par l'appât du gain, ou guidés par la curiosité dans des contrées jusqu'alors inconnues. Le hasard a conservé le nom de quelques-uns. Le premier envoyé qui vint trouver le roi de Hongrie de la part des Tartares était un Anglais banni de son pays pour certains crimes et qui, après avoir erré dans toute l'Asie, avait fini par prendre du service chez les Mongols. Un cordelier flamand rencontra dans le fond de la Tartarie une femme de Metz nommée Paquette qui avait été enlevée en Hongrie, un orfèvre parisien dont le frère était établi à Paris sur le Grand Pont et un jeune homme des environs de Rouen qui s'était trouvé à la prise de Belgrade. Il y vit aussi des Russes, des Hongrois et des Flamands. Un chantre, nommé Robert, après avoir parcouru l'Asie orientale, revint mourir dans la cathédrale de Chartres. Un Tartare était fournisseur de casques dans les armées de Philippe le Bel. Jean de Plancarpin trouva, près de Gayouk, un gentilhomme russe, qu'il nomma Témère, qui servit d'interprète. Plusieurs marchands de Breslave, de Pologne, d'Autriche, l'accompagnèrent dans son voyage en Tartarie. D'autres revinrent avec lui par la Russie. C'étaient des Génois, des Pisans, des Vénitiens. Deux marchands de Venise que le hasard avait conduits à Bokhara. Ils se laissèrent aller à suivre un ambassadeur mongol que Oulagou envoyait à Kubilai. Ils séjournèrent plusieurs années tant en Chine qu'en Tartarie, revinrent avec des lettres du grand Khan pour le pape, retournèrent auprès du grand Khan, emmenant avec eux le fils de l'un d'eux, le célèbre Marc Paul, et quittèrent encore une fois la cour de Kubilai pour s'en revenir à Venise. Des voyages de ce genre ne furent pas moins fréquents dans le siècle suivant. De ce nombre sont ceux de Jean de Mandeville, médecin anglais, d'Orderic de Frioul, de Pegoletti, de Guillaume de Boule de Sel et de plusieurs autres. On peut bien croire que ceux dont la mémoire s'est conservée ne sont que la moindre partie de ceux qui furent entrepris et qu'il y eut, dans ce temps, plus de gens en état d'exécuter des courses lointaines que d'en écrire la relation. Beaucoup de ces aventuriers durent se fixer et mourir dans les contrées qu'ils étaient allés visiter. D'autres revinrent dans leur patrie, aussi obscure qu'auparavant, mais l'imagination remplie de ce qu'ils avaient vu, le racontant à leur famille, l'exagérant sans doute, mais laissant autour d'eux, au milieu de fables ridicules, des souvenirs utiles et des traditions capables de fructifier. Ainsi furent déposés en Allemagne, en Italie, en France, dans les monastères, chez les seigneurs, et jusque dans les derniers rangs de la société, des semences précieuses destinées à germer un peu plus tard. Tous ces voyageurs ignoraient, portant les arts de leur patrie dans les contrées lointaines, en rapportaient d'autres connaissances non moins précieuses et faisaient, sans s'en apercevoir, des échanges plus avantageux que tous ceux du commerce. Par là, non seulement le trafic des soieries, des porcelaines, des denrées de l'Hindoustan s'étendait et devenait plus praticable, il s'ouvrait de nouvelles routes à l'industrie et à l'activité commerciale. Mais ce qui valait mieux encore, des mœurs étrangères, des nations inconnues, des productions extraordinaires venaient s'offrir en foule à l'esprit des Européens resserrés depuis la chute de l'Empire romain dans un cercle trop étroit. On commença à compter pour quelque chose la plus belle, la plus peuplée et la plus anciennement civilisée des quatre parties du monde. On songea à étudier les arts, les croyances, les idiomes des peuples qui l'habitaient. Et il fut même question d'établir une chaire de langue tartare dans l'université de Paris. Des relations romanesques, bientôt discutées et approfondies, répandirent de toutes parts des notions plus justes et plus variées. Le monde sembla s'ouvrir du côté de l'Orient. La géographie fit un pas immense. L'ardeur pour les découvertes devint la forme nouvelle que revêtit l'esprit aventureux des Européens. L'idée d'un autre hémisphère cessa, quand le nôtre fut mieux connu, de se présenter à l'esprit comme un paradoxe dépourvu de toute vraisemblance. Et ce fut en allant à la recherche du Tsibangri de Marc Paul que Christophe Colomb découvrit le Nouveau Monde. Je m'écarterai trop de mon sujet en recherchant quels furent dans l'Orient les effets de l'irruption des Mongols. La destruction du califat, l'extermination des Bulgares, des Comans et d'autres peuples septentrionaux, l'épuisement de la population de la Haute-Asie, si favorable à la réaction par laquelle les Russes, jadis vassaux des Tartares, ont à leur tour subjugué tous les nomades du Nord, la soumission de la Chine à une domination étrangère, l'établissement définitif de la religion indienne au Tibet et dans la Tartarie, tous ces événements seraient dignes d'être étudiés en détail. Je ne m'arrêterai pas même à examiner quels peuvent avoir été, pour les nations d'Asie orientale, les résultats des communications qu'elles eurent avec l'Occident. L'introduction des chiffres indiens à la Chine, la connaissance des méthodes astronomiques des musulmans, la traduction du Nouveau Testament et des psaumes en langue mongole, faite par l'archevêque latin de Khandbalik, Pékin, la fondation de la hiérarchie lamaïque, formée à l'imitation de la cour pontificale et produite par la fusion qui s'opéra entre les débris du nestorianisme établi dans la Tartarie et les dogmes des bouddhistes, voilà toutes les innovations dont il a pu rester quelques traces dans l'Asie orientale. Et comme on voit, le commerce des francs n'y entre que pour peu de choses. Les Asiatiques sont toujours punis du dédain qu'ils ont eu pour les connaissances des Européens, par le peu de fruits que ce dédain même leur permet d'en tirer. Pour me borner donc à ce qui concerne les Occidentaux, et pour achever de justifier ce que j'ai dit en commençant ces mémoires, que les effets des rapports qu'ils avaient eus dans le XIIIe siècle avec les peuples de la Haute-Asie avaient contribué indirectement au progrès de la civilisation européenne, je terminerai par une réflexion que je présenterai avec d'autant plus de confiance qu'elle n'est pas entièrement nouvelle et que cependant les faits que nous venons d'étudier semblent propres à lui prêter un appui qu'elle n'avait pas auparavant. Avant l'établissement des rapports que les croisades d'abord et plus encore l'irruption des Mongols firent naître entre les nations de l'Orient et de l'Occident, la plupart de ces inventions qui ont signalé la fin du Moyen-Âge, étaient depuis des siècles connus des Asiatiques. La polarité de l'aimant avait été observée et mise en œuvre à la Chine dès les époques les plus reculées. Les poudres explosives ont été de tout temps connues des Hindous et des Chinois. Ces derniers avaient, au Xe siècle, des chars à foudre qui paraissaient avoir été des canons. Il est difficile de voir autre chose dans les pierriers à feu, dont il est si souvent parlé dans l'histoire des Mongols. Oulagou, partant pour la Perse, avait dans son armée un corps d'artilleurs chinois. D'un autre côté, l'édition Princeps des livres classiques, gravée en planches de bois, est de l'an 952. L'établissement du papier-monnaie et des comptoirs pour le change eut lieu chez les Zhou Chen l'an 1154. L'usage de la monnaie de papier fut adopté par les Mongols établis à la Chine. Elle a été connue des Persans sous le nom même que les Chinois lui donnent, et Josaphat Barbaro a pris en 1450 d'un Tartare intelligent qu'il rencontra à Sof et qui avait été en ambassade à la Chine que cette sorte de monnaie y était imprimée chaque année con nuova stampa. Et l'expression est assez remarquable pour l'époque où Barbaro fit cette observation. Enfin, les cartes à jouer, dont tant de savants ne se seraient pas occupés de rechercher l'origine, si elles ne marquaient l'une des premières applications de l'art de graver en bois, furent imaginées à la Chine l'an 1120. Il y a d'ailleurs, dans les commencements de chacune de ces inventions, des traits particuliers qui semblent propres à en faire découvrir l'origine. Je ne parlerai point de la boussole, dont Anger me paraît avoir soutenu victorieusement l'Antiquité à la Chine, mais qui a dû passer en Europe par l'effet des croisades, antérieurement à l'irruption des Mongols, comme le prouve le fameux passage de Jacques de Vitry et quelques autres. Mais les plus anciennes cartes à jouer, celles du jeu de tarot, ont une analogie marquée par leur forme, les dessins qu'elles offrent, leur grandeur, leur nombre, avec les cartes dont se servent les Chinois. Les canons furent les premières armes à feu dont on fit usage en Europe. Ce sont aussi, à ce qu'il paraît, les seuls que les Chinois connussent à cette époque. La question relative au papier-monnaie paraît avoir été envisagée sous son véritable jour par M. Langlès et après lui par Ager. Les premières planches dont on s'est servi pour imprimer étaient de bois et stéréotypées comme celles des Chinois. Et rien n'est plus naturel que de supposer que quelques livres venus de la Chine a pu en donner l'idée. Cela ne serait pas plus étonnant que le fragment de Bible en lettres gothiques que le père Martini trouva chez un Chinois de Changcheofu. Nous avons l'exemple d'un autre usage qui a manifestement suivi la même route. C'est celui du Suan Pan ou de la machine arithmétique des Chinois, qui a été sans aucun doute apporté en Europe par les Tartares de l'armée de Batou et qui s'est tellement répandu en Russie et en Pologne que les femmes du peuple qui ne savent pas lire ne se servent pas d'autre chose pour les comptes de leur ménage et les opérations du petit commerce. La conjecture qui donne une origine chinoise à l'idée primitive de la typographie européenne est si naturelle qu'elle a été proposée avant même qu'on eût pu recueillir toutes les circonstances qui la rendent si probable. C'est l'idée de Paul Jove et de Mendoza, qui pensent qu'un livre chinois put être apporté avant l'arrivée des Portugais aux Indes par l'entremise des Scythes et des Moscovites. Elle a été développée par un Anglais anonyme, et si l'on a soin de mettre de côté l'impression en caractère mobile, qui est bien certainement une invention particulière aux Européens, on ne voit pas ce qu'on pourrait opposer à une hypothèse qui offre une si grande vraisemblance. Mais cette supposition acquiert un bien plus haut degré de probabilité si on l'applique à l'ensemble des découvertes dont il est question. Tout avait été fait dans l'Asie orientale, tout était ignoré dans l'Occident. La communication a lieu. Elle se prolonge pendant un siècle et demi, et un autre siècle à peine écoulé, toutes se trouvent connues en Europe. Leur source est enveloppée de nuages. Le pays où elles se montrent, les hommes qui les ont produites sont également un sujet de doute. Ce ne sont pas les contrées éclairées qui en sont le théâtre. Ce ne sont point des savants qui en sont les auteurs. Des gens du peuple, des artisans obscurs font coup sur coup briller ces lumières inattendues. Rien ne semble mieux montrer les effets d'une communication. Rien n'y est mieux d'accord avec ce que nous avons dit plus haut de ces canaux invisibles, de ces ramifications inaperçues, par où les connaissances des peuples orientaux avaient pu pénétrer dans notre Europe. La plupart de ces inventions se présentent d'abord dans l'état d'enfance où les ont laissés les Asiatiques, et cette circonstance nous permet à peine de conserver quelques doutes sur leur origine. Les unes sont immédiatement mises en pratique, d'autres demeurent quelque temps enveloppés dans une obscurité qui nous dérobe leur marche et sont prises, à leur apparition, pour des découvertes nouvelles. Toutes, bientôt perfectionnées, et comme fécondées par le génie des Européens, agissent ensemble et communiquent à l'intelligence humaine le plus grand mouvement dont on ait conservé le souvenir. Ainsi, par ce choc des peuples, se dissipèrent les ténèbres du Moyen-Âge. Des catastrophes, dont l'espèce humaine semblait n'avoir qu'à s'affliger, servirent à la réveiller de la léthargie où elle était depuis des siècles, et la destruction de 20 empires fut le prix auquel la Providence accorda à l'Europe les lumières de la civilisation actuelle. La dynastie mongole des Yuan occupa l'empire pendant un siècle. Après avoir brillé d'une splendeur dont les reflets se répandirent sur les contrées les plus éloignées, elle s'éteignit avec Chunti, prince faible, et plus soucieux de frivoles amusements, que du grand héritage que lui avaient légué ses ancêtres. Les Chinois reconquirent leur indépendance, et Chu Yuanchang, fils d'un laboureur et longtemps domestique dans un couvent de bonzes, fut le fondateur de la célèbre dynastie des Ming. Il monta sur le trône impérial en 1368 et régna sous le nom de Hung Wu. Les Tartares furent massacrés en grand nombre dans l'intérieur de la Chine, et les autres furent refoulés dans leur ancien pays. L'empereur Yongle les poursuivit et alla les chercher jusqu'à 3 fois au-delà du désert, à plus de 200 lieues au nord de la Grande Muraille, pour achever de les exterminer. Il ne put pourtant en venir à bout, et étant mort au retour de sa 3e expédition, ses successeurs laissèrent les Tartares en repos au-delà du désert, d'où ils se répandirent de côté et d'autre. Les principaux princes du sang de Tchingis Khan occupèrent chacun avec leurs gens un pays particulier et donnèrent naissance à diverses tribus qui toutes formèrent autant de petites souverainetés. Ces princes déchus, toujours tourmentés par le souvenir de leur ancienne domination, reparurent plusieurs fois aux frontières de l'Empire et ne cessèrent jamais de donner de l'inquiétude aux souverains chinois sans pourtant venir à bout de leur tentative d'invasion. Vers le commencement du XVIIe siècle, les Tartares mandchous s'étant emparés de la Chine, les Mongols leur firent petit à petit leur soumission et se placèrent sous leur suzeraineté. Les Oélètes, tribu mongole qui tire son nom d'Olutai, célèbre guerrier dans le XVe siècle, faisaient des invasions fréquentes dans le pays des Khalkhas. Il s'éleva une guerre acharnée entre ces deux peuples. L'empereur Kang He, sous prétexte de les réconcilier, prit part à leur querelle. Il termina la guerre en soumettant les deux parties et étendit sa domination dans la Tartarie jusqu'aux frontières de la Russie. Les 3 khans des Khalkhas vinrent faire leur soumission à l'empereur mandchou, qui convoqua une grande réunion aux environs de Tolon Nord. Chaque khan lui fit présent de 8 chevaux blancs et d'un chameau blanc. De là, ce tribut fut nommé en langue mongole Yusun Chayan, les 9 blancs. Il fut convenu que tous les ans ils en apportaient un semblable. Aujourd'hui, les peuples tartares, plus ou moins soumis à la domination des empereurs mandchous, ne sont plus qu'ils étaient au temps de Tchingis Khan et de Timur. Depuis cette époque, la Tartarie a été bouleversée par tant de révolutions, elle a subi des changements politiques et géographiques si notables, que ce qu'on en dit, les voyageurs et les écrivains d'autrefois ne sauraient plus lui convenir. Pendant longtemps, les géographes ont divisé la Tartarie en 3 grandes parties. Premièrement, la Tartarie russe, s'étendant de l'est à l'ouest depuis la mer de Kamtchatka jusqu'à la mer Noire, et du nord au sud depuis les pays habités par les peuplades de Tougouze et Samoyède jusqu'aux lacs Baïkal et Aral. Deuxièmement, la Tartarie chinoise, bornée à l'est par la mer du Japon, au midi par la Grande Muraille de la Chine, à l'ouest par le Gobi ou Grand Désert sablonneux, et au nord par le lac Baïkal. Troisièmement, enfin, la Tartarie indépendante, s'étendant jusqu'à la mer Caspienne et englobant dans ses limites tout le Tibet. Une division semblable est tout à fait chimérique et ne peut reposer sur aucun fondement. Tous ces vastes pays, à la vérité, ont fait partie autrefois des grands empires de Tchingis Khan et de Timur. Les hordes tartares s'en faisaient à volonté des campements pendant leurs courses guerrières et vagabondes. Mais aujourd'hui, tout cela a changé. Et pour se former une idée exacte de la Tartarie moderne, il est nécessaire de modifier beaucoup les notions qui nous ont été transmises par les auteurs du Moyen-Âge et qui, faute de nouveaux et meilleurs renseignements, ont été adoptées par tous les géographes jusqu'à Malte Brun inclusivement. pour bien fixer ses idées sur la Tartarie, nous pensons que la règle la plus claire, la plus certaine, et par conséquent la plus raisonnable, est d'adopter les opinions des Tartares eux-mêmes et des Chinois, bien plus compétents en cette matière que les Européens, qui n'ayant aucune relation avec cette partie de l'Asie, sont obligés de s'adonner à des conjectures souvent peu conformes à la vérité. Suivant un usage universel, et qu'il nous a été facile de constater pendant nos voyages, nous diviserons les peuples tartares en orientaux, Tung-Tatsé ou Mandchou, et occidentaux, Si-Tatsé ou Mongols. Les limites de la Mandchourie sont très claires, comme nous l'avons déjà dit. Elle est bornée au nord par les monts Khingan qui la séparent de la Sibérie, au midi par le golfe Fuhai et la Corée, à l'orient par la mer du Japon et à l'occident par la barrière de Pieux et un embranchement du Sakhalien Oula. Il serait difficile de fixer les bornes de la Mongolie d'une manière aussi précise. Cependant, sans beaucoup s'écarter de la vérité, on peut les comprendre entre le 75e et le 118e degré de longitude de Paris et entre le 35e et le 50e degré de latitude septentrionale. La Grande et la Petite Boukharie, la Kalmonki, le Grand et le Petit Tibet, toutes ces dénominations nous paraissent purement imaginaires. Nous entrerons là-dessus dans quelques détails, dans la seconde partie de notre voyage, lorsque nous aurons à parler du Tibet et des peuples qui l'avoisinent. Les peuples qui se trouvent compris dans la grande division de la Mongolie, que nous venons de donner, ne doivent pas tous indistinctement être considérés comme mongols. Il en est plusieurs auxquels on ne peut attribuer cette dénomination qu'avec certaines restrictions. Vers le nord-ouest, par exemple, les Mongols se confondent souvent avec les musulmans, et vers le sud, avec les Sifans ou Tibétains orientaux. La meilleure méthode pour distinguer sûrement ces peuples, c'est de faire attention à leur langage, à leurs mœurs, à leur religion, à leurs costumes, et surtout aux noms qu'ils se donnent eux-mêmes. Les Mongols Khalkhas sont les plus nombreux, les plus riches et les plus célèbres dans l'histoire. Ils occupent tout le nord de la Mongolie. Leur pays est immense. Il comprend près de 200 lieues du nord au sud et environ 500 de l'est à l'ouest. Nous ne répéterons pas ici tout ce que nous avons déjà dit du pays des Khalkhas. Nous ajouterons seulement qu'il se divise en 4 grandes provinces, soumises à 4 souverains spéciaux. Ces provinces se subdivisent elles-mêmes en 84 bannières, en chinois Qi et en mongol Bokon. Des princes de divers degrés sont placés à la tête de chaque bannière. Malgré l'autorité de ces princes séculiers, on peut dire que les Khalkhas dépendent tous du Gizon Tamba, grand lama, Bouddha vivant de tous les Mongols Khalkhas, qui se font un honneur de se nommer disciples du saint du Kuren, Kure Bokte Ainshabi. Les Mongols du Sud n'ont pas de dénomination particulière. Ils prennent simplement le nom de la principauté à laquelle ils appartiennent. Ainsi on dit Mongol du Sunyut, Mongol de Geshekten, etc. La Mongolie méridionale comprend 25 principautés qui, comme celle des Khalkhas, se divisent ensuite en plusieurs Borkon. Les principales sont l'Ortou, les deux Toumet, les deux Sunyut, le Tchakar, Karatsin, Ougnyot, Geshekten, Barin, Naïman et le pays des Oëlètes. Les Mongols méridionaux, voisins de la Grande Muraille, ont un peu modifié leurs mœurs par les rapports fréquents qu'ils ont avec les Chinois. On remarque quelquefois dans leurs costumes une certaine recherche et dans leur caractère des prétentions au raffinement de la politesse chinoise. En se dépouillant de ce sans-façon et de cette bonhomie qu'on trouve chez les Mongols du Nord, ils ont emprunté à leurs voisins quelque chose de leur astuce et de leur fatuité. En allant vers le sud-ouest, on rencontre les Mongols de Kuku Nord, ou Lac Bleu, en chinois Tsinghai, Mer Bleue. Il s'en faut bien que ce pays ait toute l'étendue qu'on lui assigne généralement dans les cartes géographiques. Les Mongols du Kuku Nord n'occupent que les environs du lac qui leur a donné son nom. Encore sont-ils mélangés de beaucoup de Sifans qui ne peuvent demeurer avec sécurité dans leur propre pays à cause de certaines hordes de brigands qui ne cessent de le désoler. À l'ouest du Kuku Nord est la rivière Tsaïdam où campent de nombreuses peuplades qu'on nomme Mongols Tsaïdam et qu'on ne doit pas confondre avec les Mongols du Kuku Nord. Plus loin encore et au cœur même du Tibet, on rencontre d'autres tribus mongoles. Nous n'en disons rien ici, parce que nous aurons occasion d'en parler dans le cours de notre voyage. Nous reviendrons aussi avec quelques détails sur les Mongols du Kuku Nord et de Tsaïdam. Les Tartares Torgot, qui habitaient autrefois non loin de Karakorum, capitale des Mongols du temps de Genghis Khan, se trouvent actuellement au nord-ouest de la Mongolie. En 1672, la tribu tout entière, après avoir plié ses tentes et rassemblé ses nombreux troupeaux, abandonna les lieux qui lui avaient servi de berceau. Elle s'avança vers la partie occidentale de l'Asie et alla s'établir dans les steppes qui sont entre le Don et le Volga. Les princes Torgoth reconnurent la domination des empereurs moscovites et se déclarèrent leurs vassaux. Cependant, ces hordes vagabondes et passionnées à l'excès pour l'indépendance de leur vie nomade ne purent s'accommoder longtemps des nouveaux maîtres qu'elles s'étaient choisis. Bientôt, elles prirent en aversion les lois et les institutions régulières qui commençaient à s'établir dans l'Empire russe. En 1770, la tribu des Torgoth opéra de nouveau une migration générale. Guidée par son chef, Obusha, elle disparut subitement, dépassa les frontières russes et s'arrêta sur les bords de la rivière Dili. Cette fuite avait été concertée avec le gouvernement de Pékin. L'empereur de Chine, qui avait été prévenu de l'époque de son départ, la prit sous sa protection et lui assigna des cantonnements sur les bords de la rivière Dili. La principauté d'Ili est actuellement comme le Botany Bay de la Chine. C'est là que sont déportés les criminels chinois, condamnés à l'exil par les lois de l'Empire. Avant d'arriver dans ces lointains pays, ils sont obligés de traverser des déserts affreux et de franchir les monts Moussour, les glaciers. Ces montagnes gigantesques sont uniquement formées de glaçons entassés les uns sur les autres, de manière que les voyageurs ne peuvent avancer qu'à la condition de tailler des escaliers au milieu de ces glaces éternelles. De l'autre côté des monts Moussour, le pays est, dit-on, magnifique, le climat assez tempéré et la terre propre à toute espèce de culture. Les exilés y ont transporté un grand nombre de productions de la Chine, mais les Mongols continuent toujours d'y mener leur vie nomade et de faire paître leurs troupeaux. Nous avons eu occasion de voyager longtemps avec des lamas du Torgoth. Il en est même qui sont arrivés avec nous jusqu'à Lhasa. Nous n'avons remarqué ni dans leur langage, ni dans leurs mœurs, ni dans leurs costumes, rien qui pût les distinguer des autres Mongols. Ils nous parlaient beaucoup des Oros, les Russes, mais toujours de manière à nous faire comprendre qu'ils étaient peu désireux de passer de nouveau sous leur domination. Les chameaux du Torgoth sont d'une beauté remarquable. Ils sont en général plus grands et plus forts que ceux des autres parties de la Mongolie. Il serait bien à désirer qu'on pût envoyer des missionnaires jusqu'à Ili. Nous pensons qu'ils y trouveraient déjà toute formée une chrétienté nombreuse et fervente. On sait que c'est dans ce pays qu'on exile depuis longtemps, de toutes les provinces de la Chine, les chrétiens qui ne veulent pas apostasier. Le missionnaire qui obtiendrait la faveur d'aller exercer son zèle dans le Torgoth aurait sans doute à endurer d'épouvantables misères pendant son voyage. Mais quelle consolation pour lui d'apporter les secours de la religion à tous ces généreux confesseurs de la foi que la tyrannie du gouvernement chinois envoie mourir dans ces contrées éloignées. Au sud-ouest du Torgoth est la province de Kashgar. Aujourd'hui, ce pays ne peut nullement être considéré comme mongol. Ses habitants n'ont ni le langage, ni la physionomie, ni le costume, ni la religion, ni les mœurs des Mongols. Ce sont des musulmans. Les Chinois, aussi bien que les Tartares, les appellent Hoi Hoi, nom par lequel on désigne les musulmans qui habitent dans l'intérieur de l'Empire chinois. Ce que nous disons des Kashgar peut aussi s'appliquer aux peuples qui sont au sud des montagnes célestes, en chinois Tian Shan et en mongol Bokteola, montagne sainte. Dans ces derniers temps, le gouvernement chinois a eu à soutenir une terrible guerre contre le Kashgar. Les détails que nous allons donner, nous les tenons de la bouche de plusieurs mandarins militaires qui ont été de cette fameuse et lointaine expédition. La cour de Pékin tenait dans le Kashgar deux grands mandarins avec le titre de délégués extraordinaires, Qinshai. Ils étaient chargés de surveiller les frontières et d'avoir l'œil ouvert sur les mouvements des peuples voisins. Ces officiers chinois, loin de toute surveillance, exerçaient leur pouvoir avec une tyrannie si affreuse et si révoltante qu'ils finirent par pousser à bout la patience des peuples du Kashgar. Ils se levèrent en masse et massacrèrent tous les Chinois qui habitaient leur pays. La nouvelle parvint à Pékin. L'empereur, qui n'était pas instruit de la conduite révoltante de ses envoyés, leva promptement des troupes et les fit marcher contre les musulmans. la guerre fut longue et sanglante. Le gouvernement chinois dut à plusieurs reprises envoyer des renforts. Les Hoei Hoei avaient à leur tête un brave nommé Chang Kuo. Sa taille, nous a-t-on dit, était prodigieuse, et il n'avait pour toute arme qu'une énorme massue. Il défie souvent l'armée chinoise et causa la ruine de plusieurs grands mandarins militaires. Enfin, l'empereur envoya le fameux Yang qui termina cette guerre. Le vainqueur du Kashgar est un mandarin militaire de la province du Shantung, remarquable par sa haute taille et surtout par la prodigieuse longueur de sa barbe. D'après ce qu'on nous en a dit, sa manière de combattre était assez singulière. Aussitôt que l'action s'engageait, il faisait de grands nœuds à sa barbe pour n'en être pas embarrassé, puis il se portait sur l'arrière de ses troupes. Là, armé d'un long sabre, il poussait ses soldats au combat et massacrait impitoyablement ceux qui avaient la lâcheté de reculer. Cette façon de commander une armée paraîtra bien bizarre, mais ceux qui ont vécu parmi les Chinois y verront que le génie militaire de Yang était basé sur la connaissance de ses soldats. Les musulmans furent défaits et on s'empara par trahison de Chang Kuo. Il fut envoyé à Pékin, où il eut à endurer les traitements les plus barbares et les plus humiliants, jusqu'à être donné en spectacle au public, enfermé dans une cage en fer comme une bête fauve. L'empereur Tao Kuang voulut voir ce guerrier dont la renommée était si grande et ordonna qu'on le lui amenât. Les mandarins prirent aussitôt l'alarme. Ils craignirent que le prisonnier ne révélât à l'empereur les causes qui avaient suscité la révolte du Kashgar et les affreux massacres qu'en avait été la suite. Les grands dignitaires comprirent que ces révélations pourraient leur être funestes et les rendre coupables de négligence aux yeux de l'empereur pour n'avoir pas surveillé les mandarins envoyés dans les pays étrangers. Pour obvier à ce danger, ils firent avaler à l'infortuné Chang Kuo un breuvage qui lui ôta la parole et le fit tomber dans une stupidité dégoûtante. Quand il parut devant l'empereur, sa bouche, dit-on, était écumante et sa figure hideuse. Il ne put répondre à aucune des questions qui lui furent adressées. Chang Kuo fut condamné à être coupé en morceaux et à servir de pâture aux chiens. Le mandarin Yang fut comblé de faveur de l'empereur pour avoir si heureusement terminé la guerre du Kashgar. Il obtint la dignité de Batourou, mot tartare qui signifie « valeureux ». Ce titre est le plus honorifique que puisse obtenir un mandarin militaire. Le Batourou Yang fut envoyé contre les Anglais lors de leur dernière guerre avec les Chinois. Il paraît que sa tactique ne lui a pas réussi. Pendant notre voyage en Chine, nous avons demandé à plusieurs mandarins pourquoi le Batourou Yang n'avait pas exterminé les Anglais. Tous nous ont répondu qu'il en avait eu compassion. Les nombreuses principautés qui composent la Mongolie sont toutes, plus ou moins, dépendantes de l'empereur Mandchou, suivant qu'elles montrent plus ou moins de faiblesse dans les relations qu'elles ont avec la cour de Pékin. On peut les considérer comme autant de royaumes feudataires qui n'ont d'obéissance pour leurs suzerains que d'après la mesure de leurs craintes ou de leurs intérêts. Ce que la dynastie Mandchou redoute par-dessus tout, c'est le voisinage de ses tribus tartares. Elle comprend que, poussée par un chef entreprenant et audacieux, elle pourrait renouveler les terribles guerres d'autrefois et s'emparer encore de l'Empire. Aussi use-t-elle de tous les moyens qui sont en son pouvoir pour conserver l'amitié des princes mongols et affaiblir la puissance de ces redoutables nomades. C'est dans ce but, comme nous l'avons déjà remarqué ailleurs, qu'elle favorise le lamaïsme en dotant richement les lamaseries et en accordant de nombreux privilèges aux lamas. Tant qu'elle saura maintenir son influence sur la tribu sacerdotale, elle peut être assurée que ni les peuples ni les princes ne sortiront de leur repos. Les alliances sont un second moyen par lequel la dynastie régnante cherche à consolider sa domination en Mongolie. Les filles et les plus proches parentes de l'empereur, passant dans les familles princières de la Tartarie, contribuent à entretenir entre les deux peuples des relations pacifiques et bienveillantes. Cependant, ces princesses conservent toujours une grande prédilection pour la pompe et l'éclat de la cour impériale. À la longue, la vie triste et monotone du désert les fatigue, et bientôt elles ne soupirent plus qu'après les brillantes fêtes de Pékin. Pour obvier aux inconvénients que pourrait entraîner leur fréquent voyage à la capitale, on a fait un règlement très sévère pour modérer l'humeur coureuse de ces princesses. D'abord, pendant les 10 premières années qui suivent leur mariage, il leur est interdit de venir à Pékin sous peine de retranchement de la pension annuelle que l'empereur alloue à leur mari. Ce premier temps étant écoulé, on leur accorde la permission de faire quelques voyages, mais jamais elles ne peuvent suivre en cela leurs caprices. Un tribunal les charge d'examiner leurs raisons de quitter momentanément leur famille. Si on les juge valables, on leur accorde un certain nombre de jours, après lesquels il leur est enjoint de s'en retourner dans la Tartarie. Pendant leur séjour à Pékin, elles sont entretenues aux dépens de l'empereur, conformément à leur dignité. Les plus élevés dans la hiérarchie des princes mongols sont les Tsinwang et les Qiunwang. Leur titre équivaut à celui de roi. Au-dessous d'eux viennent les Peilé, les Beicé, les Kung de première et de seconde classe et les Chasak. Ils pourraient être comparés à nos anciens ducs, comtes, barons, etc. Nous avons déjà dit que les princes mongols sont tenus à certaines redevances envers l'empereur. Mais la valeur en est si minime que la dynastie mandchoue ne peut y tenir qu'à cause de l'effet moral qui peut en résulter. À considérer la chose matériellement, il serait plus vrai de dire que les mandchous sont tributaires des mongols, car pour un petit nombre de bestiaux qu'ils en reçoivent, ils leur donnent annuellement d'assez fortes valeurs en argent, en étoffes de soie, en habillements confectionnés et en divers objets de luxe et de décoration tels que globules, peaux de zibeline, plumes de paon, etc. Chaque wang de premier degré reçoit annuellement 2511 d'argent, environ 20 000 francs, et 40 pièces d'étoffes de soie. Tous les autres princes sont rétribués suivant le titre qu'ils tiennent de l'empereur. Les Chasak reçoivent tous les ans 111 d'argent et 4 pièces de soie. Il existe certaines lamaseries dites impériales, où chaque lama, en obtenant le grade de Kelon, doit offrir à l'empereur un lingot d'argent de la valeur de 50 onces. Son nom est ensuite inscrit à Pékin sur le registre du clergé impérial, et il a droit à la pension qu'on distribue annuellement au lama de l'empereur. On comprend que toutes ces mesures, très propres à flatter l'amour-propre et la cupidité des Tartares, ne doivent pas peu contribuer à entretenir leur sentiment de respect et de soumission envers un gouvernement qui met en soin à les caresser. Cependant, les Mongols du pays des Khalkhas ne paraissent pas être fort touchés de toutes ces démonstrations. Ils ne voient dans les Mandchous qu'une race rivale, en possession d'une proie qu'eux-mêmes n'ont jamais cessé de convoiter. Souvent, nous avons entendu des Mongols Khalkhas tenir sur le compte de l'empereur mandchou les propos les plus inconvenants et les plus séditieux. Ils dépendent, disent-ils, du seul Gizon Tamba, du saint par excellence, et non pas de l'homme noir qui siège sur le trône de Pékin. Ces redoutables enfants de Chinggis Khan paraissent couver encore au fond de leur cœur des projets de conquête et d'envahissement. Ils n'attendent, dirait-on, que le signal de leur grand lama pour marcher droit sur Pékin et reconquérir un empire qu'ils croient leur appartenir par la seule raison qu'ils en ont été autrefois les maîtres. Les princes mongols exigent de leurs sujets ou esclaves certaines redevances qui consistent en moutons. Voici la règle absurde et injuste d'après laquelle ces redevances doivent se payer. Le propriétaire de 5 bœufs et au-delà doit donner un mouton. Le propriétaire de 20 moutons doit en donner un. S'il en possède 40, il en donne 2. Mais on ne peut rien exiger de plus, quelque nombreux que soient les troupeaux. Comme on voit, ce tribut ne pèse réellement que sur les pauvres. Les riches peuvent posséder un très grand nombre de bestiaux sans être obligés de donner jamais plus de 2 moutons en redevance. Outre ces tribus réguliers, il en est d'autres que les princes ont coutume de prélever sur leurs esclaves dans certaines circonstances extraordinaires, par exemple pour des noces, des enterrements et des voyages lointains. Dans ces occasions, chaque décurie ou réunion de 10 tentes est obligée de fournir un cheval et un chameau. Tout Mongol qui possède 3 vaches doit donner un seau de lait. S'il en possède 5, un pot de koumis ou vin de lait fermenté. Le possesseur d'un troupeau de 100 moutons fournit un tapis de feutre ou une couverture de yourte. Celui qui nourrit au moins 3 chameaux doit fournir un paquet de longues cordes pour attacher les bagages. Du reste, dans un pays où tout est soumis à l'arbitraire du chef, ces règles, comme on peut bien penser, ne sont jamais strictement observées. Quelquefois les sujets en sont dispensés, et quelquefois aussi on exige d'eux bien au-delà de ce que la loi leur demande. Le vol et le meurtre sont très sévèrement punis chez les Mongols, mais les individus lésés ou leurs parents sont obligés de poursuivre eux-mêmes le coupable devant la justice. L'attentat le plus grand demeure impuni si personne ne se porte comme accusateur. Dans les idées des peuples à moitié civilisés, celui qui porte atteinte à la fortune ou à la vie d'un homme, est censé avoir commis seulement une offense privée, dont la réparation doit être poursuivie non par la société, mais par la personne lésée ou par sa famille. Ces notions grossières du droit sont les mêmes en Chine et dans le Tibet. On sait que Rome non plus n'en avait pas d'autre, avant l'établissement du christianisme, qui a fait prévaloir le droit de la communauté sur celui de l'individu. La Mongolie est d'un aspect généralement triste et sauvage. Jamais l'œil n'est recréé par le charme et la variété des paysages. La monotonie des steppes n'est entrecoupée que par des ravins, de grandes déchirures de terrain ou des collines pierreuses et stériles. Vers le nord, dans le pays des Calcasses, la nature paraît plus vivante. Des forêts de hautes futaies décorent la cime des montagnes et de nombreuses rivières arrosent les riches pâturages des plaines. Mais durant la longue saison de l'hiver, la terre demeure ensevelie sous une épaisse couche de neige. Du côté de la Grande Muraille, l'industrie chinoise se glisse comme un serpent dans le désert. Des villes commencent à s'élever de toutes parts. La terre des herbes se couronne de moissons, et les pasteurs mongols se voient peu à peu refoulés vers le nord par les empiétements de l'agriculture. Les plaines sablonneuses occupent peut-être la majeure partie de la Mongolie. On n'y rencontre jamais un seul arbre. Quelques herbes courtes, cassantes et qui semblent sortir avec peine de ce sol infécond, des épines rampantes, quelques maigres bouquets de bruyère, voilà l'unique végétation, les seuls pâturages du Gobi. Les eaux y sont d'une rareté extrême. De loin en loin, on rencontre quelques puits profonds, creusés pour la commodité des caravanes qui sont obligées de traverser ce malheureux pays. En Mongolie, on ne remarque jamais que deux saisons dans l'année. 9 mois sont pour l'hiver et 3 pour l'été. Quelquefois, les chaleurs sont étouffantes, surtout parmi les steppes sablonneuses, mais elles ne durent que quelques journées. Les nuits, pourtant, sont presque toujours froides. Dans les pays mongols cultivés par les Chinois, en dehors de la Grande Muraille, tous les travaux de l'agriculture doivent être bâclés dans l'espace de 3 mois. Quand la terre est suffisamment dégelée, on laboure à la hâte peu profondément, ou plutôt on ne fait qu'écorcher avec la charrue la superficie du terrain. Puis on sème aussitôt le grain. La moisson croît avec une rapidité étonnante. En attendant qu'elle soit parvenue à une maturité convenable, les agriculteurs sont incessamment occupés à arracher les mauvaises herbes qui encombrent les champs. À peine a-t-on coupé la récolte que l'hiver arrive avec son froid terrible. C'est pendant cette saison qu'on bat la moisson. Comme la froidure fait de larges crevasses au terrain, on répand de l'eau sur la surface de l'air. Elle gèle aussitôt et procure aux travailleurs un emplacement toujours uni et d'une admirable propreté. Le froid excessif qui règne en Mongolie peut être attribué à 3 causes, savoir la grande élévation du sol, les substances nitreuses dont il est fortement imprégné et le défaut presque général de culture. Dans les endroits que les Chinois ont défrichés, la température s'est élevée d'une manière remarquable. La chaleur va toujours croissant, pour ainsi dire d'année en année, à mesure que la culture avance. Certaines céréales, qui au commencement ne pouvaient pas prospérer à cause du froid, mûrissent maintenant avec un merveilleux succès. La Mongolie, à cause de ses vastes solitudes, est devenue le séjour d'un grand nombre d'animaux sauvages. On y rencontre presque à chaque pas des lièvres, des faisans, des aigles, des chèvres jaunes, des écureuils gris, des renards et des loups. Il est à remarquer que les loups de la Mongolie attaquent plus volontiers les hommes que les animaux. On les voit quelquefois traverser au galop d'innombrables troupeaux de moutons, sans leur faire le moindre mal, pour aller se précipiter sur le berger. Aux environs de la Grande Muraille, ils se rendent fréquemment dans les villages tartaro-chinois, entrent dans les fermes, dédaignent les animaux domestiques qu'ils rencontrent dans les cours et vont jusque dans l'intérieur des maisons choisir leurs victimes. Presque toujours, ils les saisissent au cou et les étranglent sans pitié. Il n'est presque pas de village en Tartarie où chaque année on ait à déplorer des malheurs de ce genre. On dirait que les loups de ces contrées cherchent à se venger spécialement contre les hommes de la guerre acharnée que leur font les Tartares. Le cerf, le bouquetin, le cheval émion, le chameau sauvage, le yak, l'ours brun et noir, le lynx, l'once et le tigre fréquentent les déserts de la Mongolie. Les Tartares ne se mettent jamais en route que bien armés d'arcs, de fusils et de lances. Quand on songe à cet affreux climat de la Tartarie, à cette nature toujours sombre et glacée, on serait tenté de croire que les habitants de ces contrées sauvages sont doués d'un naturel extrêmement dur et féroce. Leur physionomie, leur allure, le costume dont ils sont revêtus, tout semblerait d'ailleurs venir à l'appui de cette opinion. Le Mongol a le visage aplati, les pommettes des joues saillantes, le menton court et retiré, le front fuyant en arrière, les yeux petits, obliques, d'une teinte jaunâtre et comme tachée de bile, les cheveux noirs et rudes, la barbe peu fournie, la peau d'un brun très foncé et d'une grossièreté extrême. Il est d'une taille médiocre, mais ses grandes bottes en cuir et sa large robe en peau de mouton semblent lui raccourcir le corps et le font paraître petit et trapu. Pour compléter ce portrait, il faut ajouter une démarche lourde et pesante et un langage dur, criard et tout hérissé d'affreuses aspirations. Malgré ses dehors âpres et sauvages, le Mongol a le caractère plein de douceur et de bonhomie. Il passe subitement de la gaieté la plus folle et la plus extravagante à un état de mélancolie qui n'a rien de rebutant. Timide à l'excès dans ses habitudes ordinaires, lorsque le fanatisme ou le désir de la vengeance viennent à l'exciter, il déploie dans son courage une impétuosité que rien n'est capable d'arrêter. Il est naïf et crédule comme un enfant. Aussi aime-t-il avec passion les anecdotes et les récits merveilleux. La rencontre d'un lama voyageur est toujours pour lui une bonne fortune. L'aversion du travail et de la vie sédentaire, l'amour du pillage et de la rapine, la cruauté, les débauches contre nature, tels sont les vices qu'on sait plus généralement attribuer aux Tartares mongols. Nous sommes très portés à croire que le portrait qu'en ont fait les anciens écrivains n'a pas été exagéré, car on vit toujours ces hordes terribles au temps de leurs gigantesques conquêtes, traînant à leur suite le meurtre, le pillage, l'incendie et toute espèce de fléau. Cependant, les Mongols sont-ils encore aujourd'hui tels qu'ils étaient autrefois? Nous croyons pouvoir affirmer le contraire, du moins en grande partie. Partout où nous les avons vus, nous les avons toujours trouvés généreux, francs, hospitaliers, inclinés, il est vrai, comme des enfants mal élevés, à dérober des petits objets de curiosité, mais nullement habitués à ce qu'on appelle le pillage et le brigandage. Pour ce qui est de leur aversion pour le travail et la vie sédentaire, ils en sont toujours au même point. Il faut aussi convenir que leurs mœurs sont très libres, mais il y a dans leur conduite plus de laisser-aller que de corruption. On trouve rarement chez eux ces débauches effrénées et brutales auxquelles sont si violemment adonnés les Chinois. Les Mongols sont étrangers à toute espèce d'industrie. Des tapis de feutre, des peaux grossièrement tannées, quelques ouvrages de couture et de broderie ne valent pas la peine d'être mentionnés. En revanche, ils possèdent en perfection les qualités des peuples pasteurs et nomades. Ils ont les sens de la vue, de l'ouïe et de l'odorat prodigieusement développés. Le Mongol est capable d'entendre à une distance très éloignée le trot d'un cheval, de distinguer la forme des objets et de sentir l'odeur des troupeaux et la fumée d'un campement. Bien des tentatives ont déjà été faites pour propager le christianisme chez les peuples tartares, et on peut dire qu'elles n'ont pas toujours été infructueuses. Sur la fin du 8e siècle et au commencement du 9e, Timothée, patriarche des Nestoriens, envoya des moines prêcher l'évangile chez les Tartares Yungnu, qui s'étaient réfugiés sur les bords de la mer Caspienne. Plus tard, ils pénétrèrent dans l'Asie centrale et jusqu'en Chine. Du temps de Genghis Khan et de ses successeurs, des missionnaires franciscains et dominicains furent envoyés en Tartarie. Les conversions furent nombreuses. Des princes même, dit-on, et des empereurs se firent baptiser. Mais on ne peut entièrement ajouter foi aux ambassades tartares, qui, pour attirer plus facilement les princes chrétiens de l'Europe dans une ligue contre les musulmans, ne manquaient jamais de dire que leur maître avait été baptisé et faisait profession du christianisme. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au commencement du XIVe siècle, le pape Clément V érigea à Pékin un archevêché en faveur de Jean de Montcorvin, missionnaire franciscain, qui évangélisa les Tartares pendant 42 ans. Il traduisit en langue mongole le Nouveau Testament et les psaumes de David, et laissa en mourant une chrétienté très florissante. On trouve à ce sujet des détails très curieux dans le livre de l'état du Grand Khan, extrait d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale et publié dans le Nouveau Journal asiatique par M. Jacquet, savant orientaliste. Nous pensons qu'on nous saura gré d'en reproduire ici quelques fragments. C'est ainsi que se termine le tome 1er, des souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Tibet et la Chine, par Évariste Huc.